Radio Cité Genève. L'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
Aujourd'hui, je reçois le professeur Bernard Lescaze. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Très heureuse de vous recevoir ici au micro de Radio Cité Genève. Vous êtes une des gloires de notre République. Vous êtes un grand historien, vous êtes un homme politique, un enseignant. Vous êtes la mémoire de notre République. C'est beaucoup pour un seul homme. Alors merci d'être là. Et on va tout de suite vous poser la question rituelle, mon cher Bernard.
Oui.
Quel petit garçon étiez-vous ?
Alors je ne sais pas, parce qu'on n'a pas vraiment toujours des souvenirs. Si j'en crois les photos, j'étais tout mignon, mais enfin la plupart des gens sont comme ça.
Ah oh non, il y a des bébés très vilains. Il y a des bébés
voilà,
très vilains,
et puis au point de vue de caractère, ben oui, quoi, j'étais un garçon, l'aîné, j'avais deux petites sœurs, assez nettement plus jeunes, donc j'avais des jeux de garçons avec d'autres garçons de mon âge. Je n'ai pas été, je crois, particulièrement troublillon.
Non, on vous imagine très sage, très mignon et très sage. Mais vous étiez à l'école à quel endroit ?
Alors, écoutez, j'étais donc à Genève. J'ai vécu les deux ou trois premières années de ma vie, mais j'étais au jardin d'enfants à Paris. Là, je sais, mais
comment ça se fait à Paris ? Vos parents vous ont emmené à Paris pour quelle raison ?
Mes parents étaient à Paris, oui, parce que mon père avait travaillé comme pasteur en Normandie et ensuite il a fait des études de philosophie à la Sorbonne et il enseignait à l'école alsacienne.
Ah oui, c'est une très belle école.
Alors moi, ben, j'étais là, je n'ai que peu de souvenirs, mais enfin j'avais un petit lapin à la crèche et on m'a raconté que j'avais mangé deux bananes avec la plure, d'où j'en déduis que j'étais affamé. Mais enfin, c'est le seul souvenir.
J'avais peur quand vous avez évoqué votre lapin, que vous n'ayez mangé votre lapin. Non. Alors, vous étiez donc un petit garçon parisien à ce moment-là, et ensuite, vous êtes arrivé à quel âge à Genève ?
Alors, je suis arrivé à Genève, quand même assez tôt, avec l'âge de 4 ans. Et paraît-il, chaque fois que je voyais une rivière comme le Rhône, je disais « encore une Seine ».
Oh, c'est mignon, encore une Seine. Donc, vous allez à l'école à Genève.
Voilà.
Évidemment, des méthodes assez différentes de l'école alsacienne.
Oui, alors, non, j'ai fait à Genève, j'ai fait des écoles classiques, y compris le collège de Genève, qu'on n'appelait pas encore le collège Calvin, mais dans le bâtiment même du XVIe siècle, avec du grec et du latin, donc toutes sortes de choses qui ont complètement disparu aujourd'hui. Et je suis entré à l'université à 18 ans, avant mai 68. Et je pense qu'il y a une grosse coupure entre ceux qui étaient avant et ceux qui étaient après. Par exemple, j'ai fait tout ce collège dans des classes qui n'étaient pas mixtes.
Bernard, quand vous parlez de coupure, vous parlez de coupure sociale, comme par exemple la mixité, ça c'est un détail si je puis dire, bien que ça ait une influence sur la vie des jeunes gens. Mais est-ce que vous parlez aussi du contenu des études ? Est-ce que vous considérez, comme beaucoup de gens en France, par exemple, qu'à Genève aussi, il y a eu un avant et un après en termes de qualité des enseignements ?
Alors écoutez, c'est plus difficile à dire dans la mesure où ça dépend des enseignants, des professeurs, et que ceux-ci enseignaient avant et parfois après 68. C'est probablement plus marqué à l'université. Parce qu'à l'université, j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de professeurs qui enseignaient depuis 30 ans, voire 40 ans, et puis d'autres qui débutaient. Et donc là, on voyait une grande différence. Et puis, ce qui m'avait toujours un peu frappé, un enseignant de sociologie du droit qui faisait voter pour savoir si on allait prendre ou non une pause entre deux heures de cours, ce qui m'a toujours semblé aberrant. Mais là, j'ai d'autres souvenirs. Les gens fumaient dans les séminaires et j'étais très content, puisque je ne fume pas, de donner ensuite, quand je suis devenu assistant, des séminaires
sans
à
tabac.
La bibliothèque. Donc, dans un endroit où on ne pouvait de toute façon pas fumer.
Là, c'était pour des raisons de sécurité,
voilà,
pour le papier
pour
et les livres.
Mais quand on y pense, c'est extraordinaire d'imaginer que pendant les séminaires, les étudiants, les étudiantes et parfois même les enseignants fumaient.
Mais mon cher Bernard, on fumait dans les avions, souvenez-vous ?
Oui, bien sûr.
On fumait tranquillement, on fumait même des petits cigares dans les avions. Je me souviens très bien de ça.
Oui, et dans les cinémas.
Et dans les cinémas.
J'ai encore vu ça en Angleterre.
Voilà, autre temps, autre mœurs. Donc, vous étiez un étudiant heureux.
Oui, disons, j'étais un étudiant content à l'université.
Les matières, qu'est-ce que vous avez choisi ?
J'ai fait à la fois le droit et les lettres, ensemble, en même temps. Alors, il fallait un petit peu jongler avec l'horaire. Mais enfin, ça laissait quand même un certain nombre de loisirs, il ne faut pas exagérer. Évidemment, j'avais la chance d'avoir un logement, de ne pas devoir courir pour compléter les fins de mois. Mais évidemment, j'étais un étudiant sans voiture.
Alors là, de toute façon, il y en avait beaucoup.
Oui.
Il y en a encore. Et il y en a encore, et de plus en plus, puisque maintenant, ça devient un choix de vie, pas de voiture.
Oui.
Ça devient un choix philosophique.
En partie, un choix de vie qui est plus ou moins imposé. Parce que si vous habitez le centre-ville, c'est parfait. Si vous habitez la campagne, c'est un
peu plus difficile. Ça devient beaucoup plus
compliqué. Un peu plus difficile et ça dépend des saisons. Vous pouvez encore aller à bicyclette en été, mais pas tellement en hiver.
C'est vrai.
Moi, je suis assez encore pour la voiture. Je le cache
très
pas.
Très bien, très bien.
Soyons
honnêtes.
Alors
écoutez, sur cette déclaration, nous allons écouter un peu de musique, la musique que vous nous avez choisie. À tout de suite.
Radio Cité Genève.
Viviane Juteau.
L'œil du commissaire priseur.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur avec le professeur Bernard Lescaze, dont nous savons à Genève qu'il est historien, homme politique, enseignant. Mémoire de notre République, nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Nous venons d'apprendre quel genre de petit garçon il était. Nous avons vu qu'il était déjà très studieux, un étudiant aussi heureux. On va vous demander maintenant, mon cher Bernard, vos loisirs d'étudiant, qu'est-ce que c'était ?
Ah, qu'est-ce que c'était le loisir d'étudiant ? Eh bien, il y avait d'abord le scoutisme, là, au tout début. Ensuite, bon, ben, j'ai abandonné. Il y avait un peu d'équitation. J'ai aussi abandonné parce que... C'est très curieux d'ailleurs, après 18-20 ans, l'équitation c'est surtout un sport de femmes.
C'est très curieux, effectivement.
Ça. Les hommes, s'ils ne sont pas particulièrement doués, j'ai jamais été particulièrement doué en matière sportive. D'ailleurs, j'aime le mot Churchill, no sport. ben voilà, on abandonne l'équitation, etc. Alors, c'était aussi de faire des balades, de faire des dîners historiques. Je me souviens d'un dîner médiéval qu'on a fait avec une quinzaine de personnes, mais qui était extrêmement poussé
savant.
Dans les détails. On a fabriqué de l'hydromel 3 mois à l'avance. L'un d'entre nous a été chassé des perdrix en Bresse. Ensuite, il a fallu les plumer parce qu'on voulait un certain Ouais, c'était un peu difficile. Et puis, on a fait du pâté de sanglier. La recette prenait une page entière.
C'était presque Obélix, là.
C'était très bien. Et en tout cas, et on s'était costumé, bien entendu.
Ah bah oui.
Et ça laisse d'excellents souvenirs. Voilà des loisirs. Et puis, bien sûr, la lecture, le marché aux puces, etc.
Vous aimez bien la brocante ?
Oui, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on finit toujours par trouver un certain nombre de choses.
Donc
je vous dirai peut-être récemment
ce
que j'ai trouvé.
Dites-nous tout. On veut tout savoir
écoutez,
sur Radio Cité
une
Genève.
Une assiette en faïence qui représente des Japonais. Et c'est intitulé « Les envoyés du Mikado saluent le Mont Blanc ». Et ils font tous la courbette devant le Mont Blanc comme s'il s'agissait du Fujiyama. Et quand on regarde un petit peu la ville de Genève, eh bien on s'aperçoit que la cathédrale n'a pas de flèche et qu'en réalité c'est une assiette qui date de 1880. C'est bel et bien l'époque où une délégation japonaise est venue en Europe s'intéresser à différentes choses dans la vie de l'Europe et notamment à Genève s'est intéressée à la démocratie directe. Mais cette assiette qui les montre s'inclinant devant le Mont Blanc qui prend presque, pas tout à fait, la forme de Fuji, c'est extraordinaire.
Mais ça, c'est une trouvaille magnifique.
Magnifique. Alors... et pour rien.
Tant mieux.
C'est double
mieux.
Plaisir.
Absolument. Alors, on va revenir à votre vie. Donc, à quel moment entrez-vous en politique ?
Alors, relativement tard dans l'adhésion d'un parti. En politique, très tôt, à l'université, j'ai fait de la politique. Après mai 68, il fallait quand même défendre encore certaines valeurs qui n'étaient pas celles qui avaient été prônées au moment des troubles, on va dire, parce qu'à Genève, il n'y a pas eu d'émeute.
N'appelons pas ça la révolution, s'il vous plaît, parce que pour l'avoir vécu moi-même, j'ai un grand sourire quand on parle de révolution. C'était plutôt un grand mono, mais on s'est beaucoup amusé.
Absolument.
Voilà.
Alors, donc, en politique, après... J'avais 30 ans lorsqu'on m'a demandé de me présenter comme candidat à la députation. Bien entendu, j'ai pas été élu. J'étais même pas membre à l'époque du parti qui me présentait. J'avais suivi parce que j'avais un ami.
C'était le parti radical déjà.
Voilà, exactement. Voilà. Ce parti qui a fait la Suisse moderne et en partie Genève. Et puis, eh bien, ensuite, j'ai pris la tête de la rédaction du journal de ce parti qui s'appelait Le Jeune Voix. Qui avait été fondé en 1875. Et c'était un très beau journal et qui était encore au plomb.
Qui n'existe plus.
Au plomb.
Oh, ah,
alors, c'est
ça,
une
c'est
merveille.
Beau.
Donc, j'ai connu le système de Gutenberg.
L'imprimerie d'autrefois.
Et puis, j'ai vécu la petite transition parce qu'on commençait déjà à faire un peu de photocomposition, l'abandon de la linotype, de l'odeur du plomb et de l'encre d'imprimerie. Et ça aussi, c'est des souvenirs. Et puis, la possibilité de faire des articles de façon très libre. Et je suis assez content, pendant ces 30 mois où j'ai fait ça, des articles que j'avais bien entendu, je les fais à titre bénévole et à côté de recherches scientifiques différentes.
On va en reparler tout à l'heure, si vous voulez bien, mon cher Bernard, et on va écouter à nouveau la musique que vous nous avez choisie.
Radio Cité Genève. Viviane Juteau, l'œil du commissaire-priseur.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec le professeur Bernard Lescaze. Nous venons de vous quitter, mon cher Bernard, avec une nostalgie pour l'imprimerie de Gutenberg. Ceci va nous amener directement aux livres qui sont une autre de vos passions et dont nous allons parler maintenant. Parlez-nous de cette passion et de ce qui vous a amené aussi à la Bonne Mère.
Alors, écoutez, la passion des livres, elle ne m'a pas quitté depuis l'adolescence. Alors, ça a été d'abord la lecture avec des classiques, des livres contemporains. Je me souviens d'avoir présenté à l'âge de 15 ans en classe Moderato Cantabile, 3 ans après sa parution. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne me trouve pas spécialement en avance, mais je trouve que le professeur qui avait autorisé ça, lui, l'était, parce que c'était plus classique. Ensuite, j'ai commencé à... on peut pas dire collectionner, mais acheter un certain nombre de récits de voyages anciens. J'avais rencontré Nicolas Bouvier, j'avais aperçu Ella Maillard, donc des écrivains de voyage, oui.
Des gens mythiques aujourd'hui.
Voilà, mais bon, ça marque aussi le temps qui passe, parce qu'évidemment, c'est pas là. Mais j'ai acheté des récits de voyage, j'ai lu des récits de voyage. J'ai moi-même, à cette époque, voyagé, que ce soit au Mexique, en Chine, en Indonésie, en Thaïlande, dans différents voyages. Et ça m'a donné une certaine connaissance de la planète. J'ai aussi acheté des menus objets. Par exemple, en Malaisie, j'ai ramené, et je l'ai toujours, un mouchoir de mariage chinois. Parce que les Chinois de Malaisie, qui sont la plus ancienne colonie chinoise en Asie, qui remonte au XVIe siècle, ont tout un costume de mariage. Et le mouchoir du marié est en réalité une espèce de pièce d'étoffe brodée avec des petits animaux en argent et un anneau qu'il met au petit doigt. Il y a le même d'ailleurs au musée, le même approchant au musée de Kuala Lumpur, mais à bien regarder celui que j'ai acquis un peu par chance, quelqu'un venait l'apporter pour le vendre chez un antiquaire de Malacca, ressemble presque mieux que celui du musée de Kuala Lumpur.
Alors, mon cher Bernard, on voit que vous êtes un grand amateur, on sait que vous êtes un grand historien, on sait que vous adorez les livres, mais parlez-nous de la Bonne Mère. Parce que ça, vraiment à Genève.
Ça, c'était pour Genève le trésor, le coffre-fort des livres. Et d'ailleurs, grâce à Bernard Gagnebin, qui avait été l'ami de Martin Bodmer, avait poussé à cette fondation, déjà à l'université, j'en avais entendu parler. Mais la fondation Martin Bodmer n'était pas vraiment ouverte au public. Un demi-après-midi par an. Et ça n'est que lorsque le conseil de fondation... et à l'époque, je n'en étais pas du tout membre, a décidé de confier à Mario Botta, l'architecte tessinois, la construction d'un musée, que celui-ci a été ouvert avec des collections magnifiques d'incunables.
Vous nous rappelez l'année approximativement pour ceux qui ne sont pas genevois, Bernard ?
Alors, le musée, il a été ouvert il y a 11 ans. Exactement, il y a 11 ans, on a fêté l'année dernière les 10 ans du musée. Alors, il présente évidemment pas toute la collection de Martin Bodmer, mais au fond, certaines pièces particulièrement remarquables, pas seulement pour leur valeur ou leur beauté intrinsèque, comme des manuscrits enluminés du Moyen-Âge, mais aussi pour leur valeur scientifique. Par exemple, la thèse d'Einstein, ou bien une œuvre de Newton annotée par Leibniz, qui est évidemment
extraordinaire.
La rencontre de deux génies. Ça parle...
Les plus anciennes collections, qu'est-ce que c'est ?
À la Bodmer.
Oui, à la Bodmer.
Oh, alors elle remonte, c'est des pièces de l'Antiquité, bien sûr, puisque notamment la Bodmer possède l'un des très rares manuscrits sur papyrus des Évangiles. Et donc des choses extrêmement qui remontent au début du IIe siècle et au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc ça, c'est des choses... Et il y a aussi quelques tablettes cunéiformes, encore plus anciennes, mais on ne peut pas dire que ça fait partie de la collection. Mais alors, c'est évident que Martin Bodmer concevait sa bibliothèque comme un témoignage, de l'activité, de l'écrit de l'humanité. Alors, pour la civilisation occidentale, après le Moyen-Âge, il a fondé sa bibliothèque sur 5 piliers. La Bible, Homère, Dante, Goethe et Shakespeare. Vous constaterez donc que la littérature française n'est pas l'un des 5 piliers de la Fondation Martin Bodmer, alors même qu'il y a beaucoup d'œuvres originales, en édition originale, d'écrivains français. Mais entre Molière ou Racine ou Victor Hugo, il n'avait pas réussi à se déterminer. Et pour lui, qui était pourtant parfaitement francophone, au fond, les grands piliers restaient en Europe, Shakespeare, Dante et Goethe, et Homère et la Bible.
Mon cher Bernard, on va faire une pause musicale à nouveau, si vous le voulez bien, et on revient ensuite à la Bodmer, et puis à quelque chose dont vous voulez vraiment nous parler, les livres de la liberté. À tout à l'heure. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec Bernard Lescazes, professeur, historien, homme politique, enseignant. Bernard, tant de casquettes pour un seul homme, on l'a dit tout à l'heure. Et vous nous parlez de cette institution mythique de Genève qu'est la Fondation Bodmer. Racontez-nous encore, vous nous avez dit quand elle avait débuté, enfin quels étaient les débuts des collections. Nous voudrions en savoir davantage, vous avez aiguisé notre curiosité.
Alors évidemment, à la Fondation Bodmer, vous avez à la fois des manuscrits, des livres enluminés, des éditions originales, pas vraiment de reliure extraordinaire dans la mesure où Martin Bodmer adorait les livres, mais n'était pas un bibliophile, ne tenait pas spécifiquement à avoir des reliures précieuses. Il achetait d'ailleurs les bibliothèques entières et parfois vous avez le tout venant, mais il y a 100 à 200 000 livres, on ne sait pas exactement, on ne devrait
pas
le
dire.
C'est
énorme, c'est un fonds
énorme.
Non,
parce que les inventaires ne sont pas encore numérisés et précis. Alors bien entendu, on sait très exactement quels sont les livres précieux qui sont dans des compactus et chambres fortes, etc. Mais vous avez beaucoup de livres de travail utiles dont on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Et puis, les visiteurs ont évidemment la chance de regarder une exposition permanente, mais qui tourne. Tous les 2 ou 3 ans, on modifie un petit peu l'accrochage, tout en laissant évidemment en place les monuments comme la fameuse Bible de Gutenberg, qui est la seule qu'on peut voir en Suisse et la seule au monde qu'on peut voir de manière permanente.
Alors,
la Bibliothèque
sûr,
nationale de Paris en a une, mais elle n'est pas visible de façon permanente.
Alors du coup, on rentre à la Bodmer un peu comme dans une chapelle, dans la pénombre.
Ah oui, c'est la volonté de Mario Botta. Et les livres sont dans des vitrines comme des oiseaux.
Voilà,
qui
ils sont suspendus. Ouverts. Ils sont suspendus par des fils invisibles. C'est très beau, en dehors de la qualité immense de ce qui est présenté.
La scénographie est magnifique.
C'est très tout important de le dire parce que les visiteurs qui ne sont pas Genevois ou qui n'auraient pas encore visité la Bodmer doivent vraiment y aller. C'est un endroit magique.
Tout à fait. Et alors, on essaye de le faire vivre aussi par, d'une part, des expositions temporaires sur des sujets variés. Une de celles qui ont eu le plus de succès, on a peine à le dire, c'est les livres érotiques.
Oui, alors là,
la collection
il y avait la queue.
Anne. Oui.
Sans jeu de mots, mon cher Bernard, je vais me faire censurer.
Voilà. Mais il y a eu des livres, des expositions sur des sujets beaucoup plus sérieux, comme les livres de poésie italienne à l'époque de la Renaissance, qui ont attiré nettement moins de monde. Donc il y a un équilibre à avoir entre des expositions qui peuvent attirer du monde. On a fait une magnifique sur Sade. Et puis des expositions plus pointues, le livre comme objet, avec les annotations de ses lecteurs, de ses utilisateurs, qui ont évidemment attiré moins de monde, mais qui étaient de façon visible, quelque chose qu'on devait faire pour la bibliophilie mondiale, si l'on peut dire. Et puis alors, il y a eu, parce que nous avions un directeur, professeur de littérature française médiévale, qui aimait beaucoup le faste, nous avons clos sa carrière avec un catalogue de 8 kilos et de 1500 pages. J'avoue que qui sort d'une exposition avec 8 kilos au bout des bras, ça n'est pas une salle de fitness.
Ceci, c'est très drôle. Mais voilà, ça montre la variété aussi des apports intellectuels que peut donner la Bodmer. C'est immense, en fait.
Oui.
Chacun y trouve, au fond, l'aliment qu'il recherche intellectuellement. C'est un peu ça.
Oui, absolument.
C'est un peu ça. Nous sommes très fiers de cette institution,
ah oui,
de cette fondation à Genève. C'est un grand motif de fierté. C'est aussi, je pense, utile d'en parler parce que je ne serais pas étonnée que beaucoup de Genevois, et Genevois de longue date, n'y aient pas encore mis les pieds.
Mais bien sûr, beaucoup malheureusement. Et pourtant, c'est une des plus extraordinaires actions du mécénat qui a été faite au cours des 30 dernières années à Genève.
Et vous vous intéressez beaucoup au mécénat, je le sais,
oui,
Bernard.
Oui, aussi. notamment parce que avec l'affaire du musée d'art et d'histoire et la possibilité d'avoir aussi, même si c'est en dépôt de très longue durée, car 99 ans, c'est quand même très long, eh bien, une possibilité du mécénat. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que toutes nos collections publiques à Genève, et même nos parcs, sont en fait, proviennent du mécénat.
Si vous faites allusion à M. Gandur et aux dons qu'il veut faire, ou aux dépôts de longue durée qu'il veut faire et au musée d'art et d'histoire, il est venu s'en expliquer à notre micro il y a quelques mois. Et c'est vrai que c'est étrange de se dire qu'on pourrait éventuellement refuser un tel cadeau.
Voilà.
Mais ça, je ne sais pas si nous sommes politiquement corrects là. Mon cher Bernard, on va maintenant passer tout à l'heure dans notre dernière partie d'émission au Livre de la Liberté, qui sont une série de conférences, et vous allez nous en parler tout à l'heure. En attendant, je voudrais encore vous demander un mot de vos choix musicaux cette fois-ci. Vous nous avez fait écouter de l'italien classique, vous nous avez fait écouter du Beethoven. Pourquoi ?
Ah, pourquoi ? Parce que je pensais la musique classique s'apparente, allait bien avec ce qu'était la Bodmer, le Sirtaki parce que Homer est quand même l'un des piliers, et puis pour rendre hommage à l'exposition qui se fait sur les livres de la liberté, mais le titre est vaste, mais en fait le sujet recouvre les rapports entre le libéralisme anglais, le libéralisme français, le libéralisme genevois, à l'époque de la Restauration, au lendemain de la fin du régime napoléonien, et ces libéraux, en fait, parfois étaient très proches de Bonaparte et des Cent-Jours. Il suffit de penser à Benjamin Constant, par exemple. Et la harpe, c'est au fond l'instrument de la Restauration, même si au XVIIIe siècle, on en jouait, des femmes, des hommes en jouaient. Ensuite, ça a été un instrument plutôt féminin. Mais aujourd'hui, il y a des hommes, de nouveau, qui jouent de la harpe.
Cher Bernard, avant de passer à la harpe, on va écouter du luth chinois. Et si vous voulez bien, on revient tout à l'heure au Livre de la Liberté.
Thank you.
Radio Cité Genève.
Viviane Juteau.
L'œil du commissaire priseur.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur avec le professeur Bernard Lescaze qui nous a longuement parlé de cette institution merveilleuse, de cette fondation Martin Bodmer que nous avons la chance d'avoir à Genève. Et maintenant, nous allons parler des livres de la liberté. Que sont les livres de la liberté, Bernard ?
Alors, c'est une exposition qui a lieu en ce moment même et durant tout l'été 2015 à la Fondation Martin Bodmer, qui cherche non pas à montrer ce qu'a été la liberté en littérature, on aurait à ce moment-là pu prendre d'autres œuvres, mais ce qu'elle a été en politique, en droit et en économie. Le libéralisme ne remonte pas au XVIIIe siècle, il a des racines bien avant, au XVIe siècle, avec par exemple la Boétie et son discours de la servitude volontaire. Enfin, il faut bien reconnaître que c'est à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle qu'il s'est épanoui dans le domaine pénal. Il existe un libéralisme pénal, marqué notamment par la figure de Beccaria en Italie, qui veut abolir la torture, essayer de limiter la peine de mort, humaniser les prisons, un libéralisme économique avec Turgot, Adam Smith, Ricardo, Jean-Baptiste Say, Sismondi, nous voilà au premier Genevois, et on constate que la plupart de ces gens, y compris le libéralisme politique dont je devrais parler avec Mirabeau, ou plutôt Étienne Dumont, qui était le secrétaire, le speechwriter de Mirabeau, avec des juristes genevois comme Bello, avec Pellegrino Rossi un peu plus tard, qui vient à Genève en 1817, sera le premier professeur catholique nommé à l'Académie de Genève. Tous ces gens se connaissent. Tous ces gens entretiennent des relations épistolaires à une époque où il n'y a pas de téléphone, pas d'internet, on est frappé de voir qu'ils travaillent déjà en réseau. Et que Étienne Dumont ayant vécu en Angleterre longtemps, Benjamin Constant est naviguant, si l'on peut dire, entre Coppet, Lausanne et Paris. Madame de Staël, bien sûr, aussi, puisqu'elle avait été exilée par Napoléon. Elle n'aimait que Paris. Alors pour elle, elle n'aimait pas les Genevois. Coppet, c'était moyen, elle avait un beau château, donc elle pouvait y vivre, mais véritablement, elle ne voyait que Paris.
C'était un exil.
Oui, c'était pour elle, c'était dur. D'où elle est partie en Angleterre, mais comme il y avait le blocus, pour gagner Londres depuis Coppet et Genève, elle est passée par Moscou et Saint-Pétersbourg.
On n'imagine en plus pas la difficulté des transports à cette époque, où on ne prenait pas sa voiture ou l'avion, on avait des voitures à chevaux, on avait des diligences.
Bien sûr,
des...
oui, oui.
Sur des chemins mal empierrés.
Mais il y avait quand même, vous savez, des gens qui savaient voyager relativement confortablement. Parce que quand, en 1815, en 14 même, fin 14, Jean-Gabriel Hénard et sa femme Anna Hénard vont de Genève à Vienne pour participer au congrès de Vienne et faire, eh bien, leur voiture, confortable, ils le disent, est précédée par une autre voiture qui transporte les bagages et un calorifère pour que celui-ci, avec une heure de décalage, puisse être mis dans leur chambre et chauffé, et qu'ils arrivent dans une chambre toute chauffée.
Ça, donc, c'était le confort suisse avant la lettre.
Voilà. Mais ça montre quand même que les gens qui en avaient les moyens pouvaient quand même voyager. Mais évidemment,
C'était déjà sportif de monter dans une diligence, parce qu'il ne faut pas oublier que le marchepied était assez haut et ça représentait une certaine forme physique.
Les ressorts ne sont pas des suspensions des voitures d'aujourd'hui.
Voilà, c'est-à-dire que les dos devaient prendre quand même un sacré coup et c'était tiré par des chevaux.
C'est vrai.
On oublie tout ça, ouvert à tous les courants d'air.
Absolument.
Voilà.
Et alors, donc, ces gens s'écrivaient beaucoup. Et alors, on présente dans cette exposition des ouvrages qui tiennent à cette liberté économique, à cette liberté politique, en n'oubliant pas, par exemple, que quelqu'un comme François Guizot avait fait toutes ses études au Collège Calvin. comme deux siècles après, je l'ai fait au Collège Calvin. Il avait été de Nîmes, etc., amené là, que Jean-Baptiste Say avait toute sa famille maternelle qui était genevoise, et donc, bien qu'habitant Paris, son nom est un peu inconnu, mais les gens se souviennent peut-être des petits cubes de sucre, des petits morceaux de sucre. Béguin Say, eh bien oui, c'est de la même famille,
c'est lui
qui avait fondé cette raffinerie de sucre. Mais enfin, c'est son fils qui l'a développé sur le plan économique. Ça, c'est intéressant, c'est la même chose que Dupont de Nemours, qui était le secrétaire de Turgot, qui est un nom aujourd'hui connu. C'est lui qui est parti aux États-Unis, mais c'est son fils qui a contribué à fonder l'entreprise du même nom.
Eh bien, écoutez, vous parliez de la liberté. Ça, c'est l'essence de la liberté d'entreprendre.
Absolument.
Et la liberté aussi, je le pense, avec des États qui ne vous spolient pas au cours du temps et qui permettent la transmission aux successeurs, parce que ça fait partie de la liberté.
Absolument.
Mon cher Bernard, vous êtes le commissaire de cette exposition formidable, Les Livres de la Liberté. Comment c'est venu, ça ?
Alors écoutez, parce que comme membre de la Fondation Martin Bodmer, j'ai proposé ce sujet, qui était un sujet un peu original, à l'occasion notamment du bicentenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération, et que ça nous permettait de sortir un peu d'un univers purement littéraire et francophone dans lequel on s'était un peu enfermé. On souhaite faire des expositions également sur notre fond allemand et notre fond anglo-saxon, qui est très important. Et alors ce sujet permettait d'avoir des auteurs anglais, Bentham, Adam Smith, Ricardo, et des auteurs italiens comme Beccaria et des auteurs français.
Alors on va rappeler les dates. Donc c'est du 16 mai au 13 septembre 2015. On va rappeler également la façon de se rendre peut-être à la Fondation Bodmer. Donc c'est important de dire qu'elle est à Coligny, donc tout proche de Genève. Et qu'on peut y aller en bus, qu'on peut y aller avec les mouettes, qu'on peut y aller bien sûr en voiture. Il y a un parking à disposition. Le musée est bien entendu accessible aux handicapés. Et ça fonctionne du mardi au dimanche de 14h à 18h avec des nocturnes culturelles. Et bien entendu, il faut se renseigner. Et c'est pas compliqué aujourd'hui où nous disposons d'Internet. Mon cher Bernard, vous êtes un personnage extraordinaire. Je l'ai dit au début de cette émission, vous êtes la mémoire de notre République. Vous en êtes une de ses fiertés. Je vous remercie beaucoup d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Beaucoup d'être venu à ces micros. Et puis j'espère qu'on vous y accueillera encore plus souvent. Je sais que vous êtes aussi une des gloires de notre radio. Merci pour ça aussi. Et à bientôt. Et je remercie aussi à la fois Jackie Elsesser et Alexandre Jean-Renaud qui nous aide à monter ces émissions. Merci et à bientôt.